rappelle que la première séance tournait autour de Georges de Latour, sachant que il est question, n'est-ce pas, d'évoquer cinq chefs-d'œuvre de la peinture européenne du XVIIe siècle. Georges de Latour, c'était le premier. Évidemment, c'est à chaque fois un prétexte pour explorer des pans entiers de cette période. Hein. Et vous rappelez que pour Georges de Latour, on avait décidé de travailler, enfin on avait décidé, j'avais décidé de vous faire travailler sur la carrière de Georges de Latour. On avait, à vrai dire, labouré une bonne partie de ses œuvres. Hein. Et tout à fait à la fin, un peu trop rapidement, mon goût, mais bon, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, on avait esquissé un petit panorama de la peinture en France au XVIIe siècle, très vite, hein, pour essayer quand même de voir comment l'œuvre de Latour, qu'on avait bien regardé de près, s'inscrivait là-dedans. La deuxième séance était une séance, vous savez, consacrée à Rembrandt. Et là, on a regardé, c'était une entrée plus iconographique, comment Rembrandt avait beaucoup travaillé le thème de l'Ancien Testament dans ses peintures. Et faisant ça, sachant que c'est vraiment un thème majeur chez lui, hein, faisant ça, on avait pu finalement, là aussi, parcourir toute la carrière de Rembrandt du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, on avait un peu classé, vous rappelez, hein, les œuvres, voir à quel moment la carrière elle se trouvait. Et aujourd'hui, on va avoir une autre approche à partir d'un autre tableau. Un tableau, je pense, assez célèbre, que d'ailleurs vous avez peut-être qu'on l'a déjà évoqué dans d'autres ateliers ou conférences. Peut-être que vous l'avez évoqué dans des conférences à l'UTB. Hein, je ne suis pas le seul à faire des conférences d'histoire de l'art, donc il est bien possible que ce tableau ait déjà été l'objet de certains cours, je ne sais pas. Mais que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas grave, il va être la base de la séance de ce jour, et ensuite on va augmenter la focale pour essayer de mieux comprendre quel est le paysage pictural du territoire dans lequel nous allons entrer dans un instant, au XVIIe siècle. Alors je vous passe le tableau tout de suite. Enfin, pas tout de suite, il y a toujours une diapositive d'attente pour essayer de... Hein, on y va? Voilà donc le tableau par lequel nous entrons dans cette troisième séance. Non ? Bon, eh bien, tant mieux. Alors, on va commencer, avant d'aller plus loin, puisqu'il s'agit d'une peinture, en l'occurrence de grande dimension, on va peut-être déjà commencer directement par le sujet, avant d'aller plus loin. On sait que ça date du XVIIe siècle, ça oui, hein. C'est la règle du jeu. Par contre, peut-être qu'on va commencer par la question du sujet. Et pour comprendre ce qu'est le sujet, ben on va décrire ce que l'on voit. Alors, que voit-on?
Déjà,
on a
deux anges
qui ont l'air de se battre.
Ouais.
Bon, qui retiennent quelqu'un tombé.
Pardon?
Qui retiennent quelqu'un.
Deux anges qui retiennent quelqu'un qui a l'air de tomber.
C'est les deux anges qui se retiennent.
Oui, mais il y a une femme et un enfant.
Il y a une femme et un enfant.
Il y a deux anges qui ont l'air de se...
De se tenir.
Oui, de se tenir, on va dire. Ouais. Et qui retiennent...
La femme et l'enfant.
La femme et l'enfant pour qu'ils ne tombent pas. OK.
Oui, toutes les personnes qui sont en bas ont l'impression de ne pas tenir compte de ce qui se passe au-dessus. Ouais.
Et les personnes qui sont en bas ont l'air de... On a l'impression, effectivement, de deux scènes séparées. Ouais. Tout ce que vous dites est très, très intéressant, vraiment. Oui.
Il y a la dame de droite, elle allait le vieillard. Mm-hmm. Donc oui. C'est Madame la Charité, là, c'est pas ça?
Peut-être.
Il n'y a pas une histoire comme ça?
Donc il y a une dame qui allait un vieillard à droite, ok.
C'est une légende.
Une légende.
Un vieillard qui est en prison. Oui, c'est son père qui est en prison.
Bien, je vois qu'il y a la réminiscence de ce séance passée. On réinsistera tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas forcément aux séances antérieures, mais ok. Donc à droite, j'entends qu'il y a quelque chose qui vous rappelle quelque chose. C'est ça. C'est-à-dire une dame qui allait un monsieur, qui allait son père. Alors une dame jeune qui allaiterait son père, plus âgé qu'elle.
Il a été en prison.
Qui était derrière les barreaux.
Il a été condamné à mourir de faim, si je me souviens bien.
Il a été condamné à mourir de faim.
Et sa fille vient l'allaiter.
Et sa fille vient l'allaiter.
Voilà, il a trouvé un subterfuge.
Et vous disiez que c'était finalement une... une évocation de la charité, quoi.
Ça peut, je
suis
pas sûr.
D'accord.
Elle a l'air effrayée.
Elle a l'air un peu effrayée. Ouais.
Elle a peur d'être surprise, non?
Peur d'être surprise. Tout
ça, si c'est interdit.
Ça serait dans le biblique.
C'est à qui le biblique?
Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit. À qui sont les deux?
Il y a des gens qui sont
les deux pieds, là, qui sont au milieu.
Il y a deux pieds au milieu.
À gauche de la personne,
c'est le pied de la personne. C'est le pied de la personne.
Alors, c'est le pied là?
Non,
c'est le pied. Ah, c'est le pied là. D'accord, oui, il y a deux pieds.
Ah, ouais, c'est quoi? Je ne sais pas quoi les relire. Quatre personnages, un peu en conciliabule.
Il y a quatre personnages en conciliabule ici.
Un peu.
Ouais.
Et puis
un homme
par terre.
On dirait que son sort est lié au conciliabule des personnages au-dessus.
Ah, comme si les quatre personnes, là, étaient en train de décider
de son destin,
du sort de celui-là.
C'est qui ces pieds?
On a l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Peut-être il est en mouvement, quoi, ou il vient de tomber.
Oui, on aurait donc là, finalement, le résultat de quelque chose qui vient de passer. Il vient de tomber, par exemple, là.
Il y aurait peut-être un lien avec la scène du haut.
Ouais. Donc un lien, ah oui, entre avec la scène, cette scène-là. D'accord. Donc il y aurait peut-être un lien entre le haut et le bas.
Oui.
Ok.
En bas, il y a encore des pieds, là, à gauche.
Oui, en bas, il y a encore des pieds.
Il y a encore des pieds.
Il y a des pieds.
Vous parlez de quel pied? Parce qu'à force de pieds...
Non, sous l'étoile rouge.
Parce qu'il y en a là.
Non,
là. Là, vous voyez. Oui, ouais.
C'est quelqu'un d'autre.
Et dans le groupe des quatre, il y a celui qui est derrière. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il boit à la régalade?
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce qu'il fait, là?
Vous parlez de celui-là?
Oui.
Ouais.
Il boit. Oui, on dirait qu'il boit à la régalade comme ça.
Puis à l'arrière, derrière la femme, il y a un autre homme.
Il y en a encore un autre qui tient.
Oui, là, il y a effectivement un autre homme qui arrive avec une torche.
Il y a celui qui tire les pieds, là.
Celui qui tire les pieds.
Les pieds de qui, on ne sait pas.
Alors, il y a un mort.
Peut-être il tire un mort.
C'est pas les pieds,
c'est pas
les concubins.
Non,
ça fait
causer
en tout cas.
Oui, parce que c'est quand même.
Il y a de quoi?
Ah oui, il y a de quoi parler.
Un rébus.
Un rébus.
Un rébus.
Mais lequel?
Encore une scène.
Visage précis, bien dessiné. Vous voulez qu'elle fait rire encore de quoi, ces visages, ces personnages?
Ils sont très réalistes.
Oui, c'est ça. Parce que vous dites qu'ils sont effectivement précis, bien dessinés.
C'est des portraits.
Ouais, réalistes, effectivement. Un côté très réaliste, hein, vous le disiez, c'est précis, bien dessiné, c'est réaliste. Ok. Bien, je résume peut-être, hein, parce que vous en avez parlé beaucoup. En haut, on a deux anges qui se tiennent et qui ont l'air de maintenir une femme et un enfant pour qu'ils ne tombent pas. À droite, on a une scène qui nous dit quelque chose, puisqu'une femme jeune est en train d'allaiter un homme vieux qui se trouve enfermé derrière des barreaux, et ça vous rappelle l'histoire... Une histoire évoquant la question de la charité, où une femme jeune va nourrir son père en prison, qui est emprisonné pour mourir de faim, et elle le nourrit en l'allaitant. Mais vous avez remarqué que, par ailleurs, il y avait des tas de choses un peu compliquées. Derrière cette femme, on voit un personnage avec une torche, et un autre qui tire les pieds d'un autre personnage, les pieds nus. Peut-être s'agit-il d'un mort. Vous avez noté qu'au premier plan, il y avait un personnage assez dénudé. Il y en a manifestement un autre derrière dont on voit les pieds, mais qui doit être là, présent dans le noir. Et puis vous avez dit qu'il y a là quatre personnes qui ont l'air de conciliabuler, dont l'un qui a l'air de boire, comme ça, peut-être à la régalade. Et vous disiez enfin que le personnage qui est là avait peut-être un lien avec ce qui se passe au-dessus, comme s'il venait de tomber du dessus et qu'il se trouvait là, pouf, par terre, parce qu'il serait tombé de là-haut. Est-ce que j'oublie des choses? Est-ce qu'il y a des éléments complémentaires? Vous avez insisté aussi, ça j'ai oublié de le dire, sur le côté, on va dire, bien précis, bien observé des personnages, très réaliste, des figures. Hein, Voilà. Est-ce que j'ai résumé? Est-ce que vous voyez encore d'autres choses?
Si on a le droit de parler des couleurs, le clair-obscur.
Clair-obscur, oui, important d'en parler, absolument. Donc évidemment, très clair-obscur. D'ailleurs, ça rejoint ce que vous disiez sur le personnage arrière qui a une torche, hein, qui justement crée un moment de lumière, on va dire. Hein,
ça ouais. Fait penser à Georges de Latour, même le traitement, je trouve, du groupe, des ouais. Enfin, ne serait-ce que par les vêtements, c'est sûr qu'il y a une.
Donc le côté, c'est à la fois l'idée du clair-obscur, peut-être le côté réaliste qui vous fait dire ça. Effectivement, on a un côté réaliste, un côté clair-obscur, qui nous font beaucoup penser à, par exemple, Georges de Latour. Hein. On va pas dire que c'est lui, hein, mais ça nous y fait penser, effectivement. On a un peu l'impression d'être dans le même domaine.
Il y a un décor. Il y a un décor aussi, on
ne
sait pas
si on
est
à l'extérieur.
Effectivement, on ne sait pas très bien. Alors, à droite, il y a effectivement le mur de la prison, manifestement. Hein. Mais autrement, on ne sait pas très bien. Hein.
Et il y a des couleurs très très chaudes sur le groupe, je dirais, le truc.
Oui, les quatre conciliabulistes, là.
Il se passe un drame.
Il se passe quelque chose. Il y a visiblement qui sont un peu dramatiques, oui. Et effectivement, ces personnages-là sont, j'allais dire, plus chaudement colorés peut-être que le reste, qui peut-être attire le regard vers eux. Bon.
Il y en a un qui a une épée, c'est un noble.
Celui-là, qui tient cette épée-là. Ah non, c'est pas celui-là. C'est celui-là.
Non,
c'est celui-là.
Son épée est au centre.
Ah, au centre, là. Ben, c'est-à-dire que ça, c'est peut-être le fourreau de l'épée qui est là, hors du fourreau. Enfin, c'est une chose que je vous propose.
Bah, vous savez mieux que nous.
Par définition.
Il a un bâton dans la main, gauche.
Qui?
Barberousse.
La Barberousse.
Lui? Oui, ouais, il tient un bâton.
Oui, il tient un bâton.
Ouais.
Oui, à mon avis, le monsieur, il est dans une mauvaise posture. Hein.
Le monsieur du bar.
Ah oui, il est en train de se faire liquider.
Ah, il est peut-être en train de se faire liquider, c'est ça à quoi vous pensez?
Ils ont peut-être déjà
un jugement.
Un jugement? Ah, un jugement.
En haut, il y a aussi quelque chose qui ressemble à une vierge à l'enfant entre les ailes des.
Oui, oui.
Ah, donc la femme et l'enfant en haut, ce serait plutôt une vierge à l'enfant? Ah, moi.
Bah, une dame avec un enfant, c'est vrai qu'on peut
quand même, ouais, c'est pas très normal.
Et la femme.
Ok, donc en prenant ça en compte. Hein.
La femme qui allait
a l'air surprise. Oui, même vous dites quelques-uns disaient tout à l'heure un peu méfiante aussi. Oui, oui, oui. Elle regarde quelque chose. Voilà,
pas en fille. Oui, je crois qu'elle a un peu
peur.
Alors, ce genre de. À votre avis, donc vous avez décrit beaucoup de choses, tout en vous interrogeant beaucoup sur ce que ça voulait dire, ce que ça pouvait être. Cette scène, pour ça comme ça, c'est une scène de quel genre? Donc, vous avez dit que c'est peut-être une scène de jugement, mais est-ce que c'est un jugement précis, le jugement de monsieur machin ou madame truc chouette? Est-ce que. Voilà. Quel genre de
bon, hein. Scène,
une scène de la Bible, peut-être. Décidément, je vous en sers. Une scène de la Bible, je ne sais rien. Hein. Donc, ce serait une scène de la Bible.
Ça peut être allégorique aussi.
Ou alors, peut-être allégorique.
Allégorique
ouais,
sur la justice.
Oui, une scène sur la justice, une scène allégorique sur la justice. Donc, on hésite un peu entre la représentation d'une scène précise, d'une histoire précise, ou une représentation allégorique. Oui. C'est ça?
Oui.
Mmh. Ok. Bien. Ben, on a dit pas mal de choses. Mmh. Alors, il en restera peut-être, on va voir encore dans 5 minutes qui viennent, si vous avez d'autres idées à mettre en avant, mais. Si on veut aller un petit peu plus loin, sachant donc qu'on est au XVIIe siècle, hein, est-ce que vous auriez une idée d'un territoire en Europe, puisque nous sommes plutôt Italie?
Caravage.
Et vous pensez à Caravage? Alors j'allais vous dire, est-ce que vous avez un nom? Caravage sort tout de suite. Hein.
Non, pas Caravage.
Non, pas Caravage.
Italie.
En tout cas, Italie. Tout le monde a l'air d'accord?
J'aurais dit flamand.
Flamand, vous? Vous êtes le côté réaliste, justement. Hein.
Pour le côté réaliste.
Ouais. Donc, il y a une majorité italienne, mais une petite minorité flamande, voilà, du fait de la dimension très réaliste. Hein. Et j'ai même entendu parler vous avez évoqué Caravage, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire?
On sèche quoi?
Vous êtes quoi? Bien.
Alors,
peut-être je vous dis de quoi il s'agit.
Bah oui.
Voilà, c'est quand même là pour ça. Alors, en fait, ce tableau qui est bel et bien de Caravage, vous avez raison, on est bel et bien d'Italie. Mais votre idée flamande est pas mal non plus, parce que les Flamands ont beaucoup travaillé dans cette dimension réaliste, effectivement. Hein. De la même manière, Caravage, à la fin du XVIe, au début du XVIIe siècle, a lui-même, j'allais presque dire, développé cette dimension réaliste en Italie et a réalisé beaucoup d'œuvres comme ça. Et quelqu'un d'entre vous avait parlé tout à l'heure de Latour. De Latour est quelqu'un qui a été, sans avoir jamais rencontré Caravage d'ailleurs, hein. En tout cas, on n'a aucun élément qui permette de le dire, qui a été très inspiré effectivement par la peinture de Caravage. En fait, l'art de Caravage a été une telle explosion, pourrait-on dire, hein, en Italie, à la fin du XVIe, au début du XVIIe siècle, que ça a, si je veux dire, influencé un peu l'Europe entière, parce que beaucoup de peintres allaient en Italie, quoi. Hein. Et la peinture de Caravage était tellement novatrice, tellement... ça a été un tel tsunami, que beaucoup de peintres s'y sont mis. Si je veux dire, c'est le cas de Latour, hein, et c'est le cas de bien d'autres, qu'on avait rapidement listé au moment de la première séance l'autre jour. Donc c'est une œuvre de Caravage, donc c'est une œuvre très réaliste, donc c'est une œuvre très clair-obscur, parce que décidément, le réalisme et clair-obscur, ça, c'est l'ADN de Caravage.
S'il vous plaît.
Pardon ?
Est-ce que ce ne sont pas les œuvres de Chalité ?
Ah, oui,
parce que je pense que... nourrir ceux qui ont faim.
Oui, visiter
abreuver ceux qui ont soif.
Donner une sépulture à ceux
qui ont
faim.
Donner une sépulture au fond qui tient à la seule.
C'est ça.
Bravo, bravo. C'est ça. Bravo, bravo. Vous avez trouvé. Alors, ce n'est pas les œuvres de charité, c'est ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde. Mais on n'est pas loin. Hein. C'est les sept œuvres de miséricorde. Parce qu'il y a dans le dogme catholique l'idée des œuvres de miséricorde, c'est-à-dire quatre attitudes que le bon chrétien doit avoir vis-à-vis de son prochain. C'est, alors, dites-les-moi. Non, il y en a sept. On va voir si on va trouver sept.
Alors, nourrir ceux qui ont faim.
Nourrir ceux qui ont faim, donc c'est bien. Oh là là. Elle nourrit celui qui a faim.
Hein. Abreuver ceux qui ont soif.
Alors, où est-ce que vous l'avez ?
Alors,
celui derrière qui boit, effectivement. Alors, le bien, c'est qu'il s'abreuve lui-même, d'ailleurs. Mais voilà, abreuver ceux qui ont soif.
Vêtir ceux qui sont nus.
Alors là, vous le voyez où ?
En bas.
En bas, c'est-à-dire que lui, il est nu, mais il a un vêtement qui lui... qu'est-ce qu'il lui donne ?
C'est le monsieur à l'épée qui lui donne.
Pardon ?
C'est le monsieur à l'épée qui lui donne.
D'accord ? Très bien. On va là de trois. Qu'est-ce qu'il y a comme autre offre de miséricorde ?
Soigner les malades.
Soigner les malades, alors où est-ce que c'est ?
Le pied, là-haut, à droite.
Le pied, là, celui qui tire ?
Celui-là ?
À droite. Est-ce qu'il le soigne ?
Non, c'est pas plutôt ensevelir les morts.
C'est peut-être plutôt ensevelir les morts parce qu'il n'a pas l'air, hélas, très en forme. Enfin, on ne voit que les pieds, mais c'est peut-être plutôt ensevelir les morts. Ça en fait quatre. Il en reste trois.
Visiter les prisonniers.
Visiter les prisonniers. Ah oui, mais alors
c'est
où ?
La torche. Celui qui a la torche ?
Non, la
torche. Celui qui a la torche ?
Ben, la torche, c'est vraiment quelqu'un qui visite les prisonniers ?
Il y va.
Ah, il y va. Ben, je ne sais pas, vous ne le voyez pas plutôt en rapport avec... Parce que ce personnage à la torche, c'est un personnage un peu particulier.
C'est
un religieux.
C'est un religieux.
C'est un prêtre. Ah oui, les prêtres, ils peuvent visiter les prisons. Hein. Mais, en l'occurrence, c'est plutôt un prêtre qui est là pour ensevelir le mort.
C'est la femme, alors.
La femme a fait la double fonction.
Alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, ici, vous avez une double fonction. Vous avez visité les prisonniers
et
donné à manger à ceux qui ont faim. Okay. Il y a la double... Donc là, on en a cinq. Il en reste deux.
Enfin, je crois
en six,
ça va être
celui qui boit. On en a six.
Six, pardon, j'ai ma... Voilà, l'envie de mon cœur.
Les anges.
Il y a...
Accueillir les étrangers.
Accueillir les étrangers. Et alors là, c'est où ?
Justement.
Il y a les malades, pardon, on n'a pas vu les malades. Hein. Ce que vous m'avez dit dans le fond, là. Je sais bien qu'il en manquait un. Il y a accueillir les étrangers et apporter du soin ou visiter les malades. Voilà.
Secourir les malades.
Hein, ça, c'est les œuvres de miséricorde. C'est, voilà, c'est une liste hein, qui est comme ça. Hein, voilà. Vous savez, dans l'islam, il y a les piliers de l'islam. C'est pareil dans la religion chrétienne. Hein, il y a comme ça toute une série d'obligations qui sont celles du bon chrétien.
Est-ce que la maman là-haut,
c'est l'enfant. L'enfant, elle soignerait son enfant.
Ou c'est la dame qui a l'aide aussi, elle soigne le monsieur.
Ah, ou c'est la dame qui a l'aide, soigne le monsieur. Donc elle aurait trois fonctions. Hein. Elle assure. Hein.
Elle cumule.
Elle cumule. Pourquoi pas? Alors, il nous manquerait, qu'est-ce qu'il nous manque? Ah oui, accueillir les étrangers.
Dans le groupe d'hommes.
Dans le groupe d'hommes, oui.
Est-ce que celui de gauche, là, il a pas une allure.
Celui de gauche.
Catholique. Il n'a pas une allure italienne.
Il n'a pas de chapeau. Hop, bah, celui qui voit non plus.
Donc ça serait l'étranger qu'on accueille.
Donc c'est lui l'étranger qu'on accueille.
Oui,
je crois qu'il faut des ça vous va, ça? Alors, vous avez presque trouvé le truc. Il y a effectivement là, vous avez raison, la double fonction, donner à manger à ceux qui ont faim et visiter les prisonniers. Là, vous avez bel et bien enterré les morts. Vous avez effectivement donné à boire à ceux qui ont soif. Ça, il ne pose pas trop de problème. Au premier plan, vous avez effectivement vêtir les et en fait, c'est ça, avec la figure qui est derrière, vous voyez les pieds, qui correspond à visiter les malades. Ben, c'est un peu une double fonction, comme ce que vous avez là, qui correspond à deux éléments. Là, vous avez deux œuvres de miséricorde. Alors, les pieds, vous les avez vus, que les pieds, effectivement, on n'a pas grand-chose derrière. Hein. Caravage, c'est sombre, c'est comme ça. Parce que à la fois, il et celui derrière sont nus, mais aussi pas en santé, si vous voulez. Donc, il y a une double fonction au premier plan. Et puis, il y a enfin accueillir les étrangers. C'est bel et bien ce personnage-là, mais celui-là, surtout. Là, vous avez un personnage, vous avez bien noté qu'il avait un bâton, mais il a un chapeau aussi. Et sur le chapeau, il y a une coquille Saint-Jacques. C'est donc un pèlerin. Un étranger qui débarque de je ne sais où, et que l'autre en face accueille. D'ailleurs, il lui montre du doigt l'endroit où elle est. Hein. Il accueille l'étranger. Donc vous avez en bas les sept œuvres de miséricorde. Alors, vous êtes beaucoup posé des questions sur le haut, avec ces anges qui se cassent la figure, etc. Mais vous aviez raison, madame, il s'agit de la Vierge et l'enfant. C'est la Vierge et l'enfant qui sont accompagnés d'anges et qui regardent les humains faire leurs bonnes œuvres. Vous voyez, ils sont là dans le ciel pour regarder ça. Alors, c'est très amusant ce que vous avez montré, comment ça avait l'air assez détaché, les deux scènes l'une de l'autre. Hein. C'est assez vrai. Hein. Il y a vraiment deux registres, en quelque sorte, hein, qui ont l'air assez détachés. C'est d'autant plus marrant que quand Caravage avait 7 heures, au départ, il n'avait conçu que la partie inférieure, mais c'est les commanditaires qui ont commandé le tableau qui lui ont fait rajouter la partie supérieure. Donc, effectivement, au départ, vous voyez, les deux choses ne communiquent pas ensemble. Mais de toute façon, c'est d'autant plus juste cette espèce de côté de deux scènes détachées que les gens du bas ne voient pas les gens du haut. Hein. Dieu, la Vierge, ça nous voit en permanence. Enfin, on n'y croit pas, c'est pas ça le problème. Hein. Mais si vous voulez, les gens du bas ne sont pas censés voir ce qui se passe au-dessus. On ne voit pas les anges, on ne voit pas la Vierge Marie et le Christ. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Eux, par contre, nous voient et regardent. Hein, eux observent. Donc on a effectivement une sorte de dichotomie. Ce qui se passe en bas n'est pas du tout... Enfin, ceux qui sont en bas ne voient pas du tout ce qui se passe en haut. Hein. Et puis, vous aviez remarqué, en parlant de ces anges qui se tiennent comme ça, le côté... Certains ont même dit qu'ils étaient en train de se bagarrer. Hein. Ça, c'est assez caravagesque. Hein. On sait, Caravage, c'est un bad boy, comme on dit aujourd'hui. Hein. C'est un type un peu... Voilà. Donc quand il y a des anges, c'est pas forcément de petits anges gentils comme ça. Il y a une espèce de contondance, il y a du mouvement, ça. Boum, n'est-ce pas, voilà. Hein. Même entre anges. Alors, ils sont pas en train de se bagarrer. Hein. Simplement, ils sont pas là, simplement, tranquillement assis sur des nuages, à regarder ce qui se passe en dessous. Il y a une espèce de force, oui, de dynamisme chez Caravage, hein. Même dans des scènes comme celle-là. Et alors, ce qui est intéressant aussi, vous l'avez vu au moins pour un élément, c'est que certaines de ces scènes reprennent des grandes légendes, des grands mythes. Par exemple, vous avez remarqué qu'ici, il y avait effectivement le mythe, ça y est, les noms que j'avais tout à l'heure m'échappent, de Simon, non, de Siro et... le nom m'échappe, enfin bref, un vieux mythe tiré de l'histoire romaine, qu'on a évoqué tout à l'heure, hein. Un vieil homme a été mis en prison, mis au fer, on laisse mourir de faim, sa fille demande à le voir, et elle va le voir tous les jours, et en fait, en faisant attention à ce que les gens de la prison ne la voient pas, elle lui donne le sein, ce qui fait qu'en fait, il ne va pas mourir de faim. Et vous savez que c'est ce qui va faire que les cadres de la prison vont finalement le libérer, parce que voyant cet amour de la fille pour son père, ils vont décider de libérer le père. Voilà. Donc grand épisode, effectivement, symbolique de charité. Mais au premier plan, ce que vous n'avez pas vu, ce personnage qui est en train de donner un morceau de son manteau, c'est Saint-Martin. Connaissez l'histoire de Saint-Martin, hein. Vous savez que Saint-Martin est un légionnaire et même un officier de l'armée romaine. Et vous savez qu'un jour, alors qu'il était à l'entrée de la ville d'Amiens, il y avait là un pauvre qui était par terre, qui lui a demandé quelque chose. Il était nu et ce pauvre lui a demandé quelque chose pour se vêtir. Et Martin a coupé son manteau en deux parce qu'un légionnaire romain, enfin un membre de l'armée romaine, surtout dans ses niveaux d'officier, payait la moitié de son équipement. Donc Martin n'a pas pu lui donner sa cape entière. Oui. Il a coupé en deux pour donner la partie de la cape que lui avait payée. Vous voyez ce que je veux dire. L'autre, ça appartient à César. On laisse à César ce qui appartient à César. Quand ce qui lui appartenait à lui, il a pu. Donc il a coupé en deux. Il a donné la moitié de sa cape à cet homme qui lui demandait quelque chose dans la rue. Et la nuit, Saint-Martin a été visité par le Christ qui lui a dit que ce mendiant, en fait, c'était le Christ. Qui essayait, si vous voulez, de... Voilà. Alors tout ça, c'est des légendes, etc. Mais vous savez que Saint-Martin était un saint hyper populaire en Gaule, hein, en France, hein, bref. Voilà. Donc ce que vous avez là, c'est décidément l'histoire de Saint-Martin qui doit avoir son manteau. Et dans le fond, le personnage qui est en train de boire, alors vous ne le voyez pas trop, hein, mais il est en train de boire et il prend de l'eau qu'il a pris dans une mâchoire d'âne. Je ne sais pas si vous avez vu une mâchoire d'âne, hein, mais la mâchoire d'âne, c'est comme une sorte de grosse cuillère. Si vous, hein. Vous pouvez prendre de l'eau comme ça, prendre de l'eau ou un autre liquide, hein, voilà. Et il est en train, après avoir mis de l'eau dans la mâchoire d'âne, de boire. Or, il y a un personnage qui a un rapport avec les mâchoires d'âne, c'est Samson. Samson qui, dans la Bible, a notamment battu les Philistins en leur tapant dessus avec une mâchoire d'âne. Hein. Et Samson, à un moment, justement, boit en utilisant la mâchoire d'âne. C'est donc lui qui est là. Donc vous voyez qu'on a la représentation des œuvres de miséricorde, mais via un certain nombre d'éléments, j'allais dire de grands thèmes, plus ou moins légendaires, de ce que j'appellerais la mythologie chrétienne. Donc voilà, c'est un tableau très, très important qui se trouve... À votre avis, qui se trouve où?
Au Louvre.
Pas au Louvre. Quelle est une des villes où... Alors, c'est pas à Londres non plus. Quelle est une des villes où Caravage a le plus exercé?
Rome.
Alors, ça peut être Rome.
Naples.
Pardon? À ma connaissance, il n'est pas... Je ne crois pas aller
en
ou pas trop.
Il est parti en Orient, il est parti à Malte.
Il est allé ensuite à Malte. Hein. On va dire que les trois grands lieux, il y en a eu d'autres, hein, mais certains des trois grands lieux où il a vraiment pu travailler, etc., c'est effectivement Rome, où vraiment il a exposé, pourrait-on dire, Malte, parce qu'il a dû quitter Rome, et Naples, et puis Malte, effectivement. Après, il a dû quitter Malte pour retourner en Italie, et puis il a été assassiné. Bien. Donc ce tableau, il se trouve à Naples, hein, à Naples, dans une église pour laquelle il a été fait. Hein. Alors je vais quand même vous montrer le tableau avec son cartel. Hein, voilà. Donc des sept œuvres de miséricorde. On est en 1607 et ça se trouve dans l'église Pio Monte della Misericordia. C'est-à-dire que ça a été commandé par une institution qui justement a pour but, si vous voulez, de déployer cette question des œuvres de miséricorde. Donc évidemment, le tableau correspond exactement au sujet même qui est celui de cette institution pieuse. Vous voyez ce que je veux dire? Et je voulais vous montrer d'ailleurs le contexte dans lequel ça se trouve. Voilà. Hein, voilà la chapelle en question. On est vraiment en Italie. Hein, c'est merveilleux. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés à Naples et ont vu ça. Hein, mais c'est pas très grand d'ailleurs. Hein, c'est assez petit. Mais c'est saisissant. Hein, quand on rentre dans cette chapelle, finalement, hein, une petite église, et qu'on voit ça, c'est quand même assez. Voilà. Et ce grand tableau, c'est assez grand. Hein. Voilà, c'est fou. Et le tableau est toujours à sa place, si vous voulez. Ça, c'est quand même formidable aussi. Donc, tableau extrêmement important d'un artiste capital, hein, bien sûr, hein, et qui est toujours dans son environnement. Je tiens à dire que ce thème des œuvres de miséricorde a été très souvent représenté. Hein. C'est pas Caravage qui soudain s'est bien le présenter, qui serait unique. Hein. Non, beaucoup de gens l'ont fait. Tout à l'heure, on parlait de la peinture flamande. Je vais vous montrer là un tableau flamand qui montre les œuvres de miséricorde. Hein. Un tableau de David Teniers qui est au Louvre, que je vous avais montré il y a quelques années. Hein. Alors, on va refaire le petit jeu, on va retrouver les sept œuvres. Alors, allons-y.
La cruche,
c'est donner à soif à ceux qui ont soif. Donner à boire à ceux qui ont soif. Voilà, alors la boisson, c'est vu, c'est là. Ensuite,
le
pain, donner à manger à ceux qui ont faim. Deux.
Vêtir.
Voilà, vêtir ceux qui sont nus. Là.
Faire entrer l'hospitalité.
Accueillir.
Visiter les malades, vous le voyez où?
Ça,
c'est accueillir les étrangers. Hein, vous avez deux pèlerins de Saint-Jacques, d'ailleurs, qui sont accueillis. Donc ça, c'est accueillir les étrangers. Ça en fait 4.
Est-ce que le malade, c'est pas tout au fond vers la tour?
Oui, vers la...
Alors, tout au fond, sur la tour ici, il y a effectivement visiter les malades. Pardon.
Les prisonniers.
Alors, il y a le prisonnier et il y a les morts.
Il y a au-dessus le prisonnier, là.
Dans la tour, en haut, à gauche.
Là, on est dans une prison.
Hein?
Oui. Ben, là, il vient visiter. Regardez, vous avez une prison avec des barreaux. Il vient visiter un prisonnier dans la prison. 6. Oui, pardon. Et effectivement, tout au fond, à droite, il y a enterré les morts. Donc, vous avez tout. Donc, voyez que cette idée des sept œuvres de miséricorde n'est pas un sujet jamais montré que Caravage, soudain, parce qu'on lui a fait une commande, représente. C'est vraiment quelque chose qui est très, très représenté. Quelquefois, même, il y a des tableaux autonomes. Je ne vais pas faire un atelier là-dessus, mais il y a quelquefois sept tableaux avec une œuvre de miséricorde à chaque fois. Ça arrive aussi. Hein. Donc, c'est un thème très, très, très représenté, un élément extrêmement important. Notamment à l'époque de la contre-réforme, hein, où vous savez, le parti catholique va y aller, hein, essayer par tous les moyens de montrer que c'est la religion catholique qui est la meilleure. Chut, on va vraiment y aller là-dessus. Voilà, donc c'est vraiment un thème important. Bien. Alors, ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, en partant de cette œuvre importante, hein, de Caravage, vous me direz, chez Caravage, il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui ne soient pas importantes. Hein. Voilà, j'avais envie de faire un petit tour de l'Italie au XVIIe siècle. J'avais envie que cette œuvre de Caravage, plutôt que de plonger dans l'œuvre de Caravage comme on a pu le faire précédemment pour Georges de Latour et pour Rembrandt, parce que bon, l'œuvre de Caravage, je ne dis pas que tout le monde la connaît, mais enfin, vous avez quand même vu les œuvres de lui. Hein. J'avais envie peut-être cette fois qu'on regarde ce qui se passe autour de Caravage en Italie au XVIIe siècle. Donc je vous ai préparé un petit diaporama d'une petite vingtaine d'œuvres. Et on va essayer de voir un peu qui sont ces artistes, leur manière de travailler, voir si on peut un peu les regrouper, peut-être voir s'il y a des écoles quoi, enfin, qui sont envisageables en regardant ces œuvres. Bref, voir un peu quels sont les répertoires, les styles, pourrait-on dire, de la peinture italienne au XVIIe siècle, qui est l'époque de Caravage. Okay. Alors on commence. Bon, à chaque fois, c'est des peintures plus ou moins grandes, ça on va peut-être pas. Hein. Peut-être on peut directement aller vers le sujet, qui me paraît peut-être la chose à dire, et puis la manière de peindre. Vous pouvez peut-être aborder l'un et l'autre un peu en désordre, si vous le voulez, mais ce qui va nous intéresser, c'est 1, qu'est-ce que ça représente, et 2, De quelle manière on a représenté ?
C'est de la mythologie.
Alors, mythologie, ouais.
C'est les dieux au-dessus.
Ouais. Effectivement, il y a tous les dieux au-dessus. Lesquels ? Parce que des dieux, il y en a tellement.
Les dieux grecs,
bah, il y a... Alors, les dieux grecs ou romains, on va dire. Hein, voilà. Vous savez, nous qui travaillons sur la Chine, sur l'Égypte, ici, des dieux, on en voit défiler. Hein. Donc, c'est des dieux grecs ou romains. Oui. Oui, vous reconnaissez par exemple, effectivement, Zeus, Jupiter. Hein, voilà.
Jupiter, Athéna,
Athéna, là-haut.
Oui. Junon à côté de Zeus.
Oui.
Héra.
Oui. Celui avec, celui-là, c'est quoi ça ?
Mars avec l'armure.
Oui.
Mars avec l'armure.
Mars avec l'armure ici. Hein.
C'est avec la fosse.
Oui, avec la fosse, c'est quoi ? Alors, la mort, ce sera un squelette. Hein. Et puis, le squelette avec la faux, c'est plutôt une iconographie chrétienne que gréco-romaine. Là, c'est un vieillard, effectivement, avec une faux. C'est qui ?
La faux, Hadès ?
Pardon ? C'est pas Hadès.
Chronos.
Chronos. Qui est quoi, Chronos ? C'est le dieu du temps. Hein. Chronos est le dieu du temps. Mais c'est une faux, Père parce qu'il fauche un peu des gens à droite et à gauche. Hein. Mais c'est le dieu du temps. Hein. Voilà.
Hercule. On a Hercule.
Hercule, on a Hercule. Très bien. Et puis à côté, la belle Vénus. Aphrodite, voilà. Aphrodite, très bien. Ok, donc on a dans les airs.
C'est Mercure.
Et alors en bas, on a effectivement Mercure.
Qui compte Fleurette.
Qui compte Fleurette à qui alors?
Un berger, il est un duc de berger,
c'est un homme.
C'est un homme ?
Oui, oui.
Alors, Mercure, Mercure et qui ? Alors, c'est un pâtre, parce qu'il garde...
Oui, il a, oui, il a effectivement un bâton de pain, de pâtre.
Oui, il a un bâton de berger.
Vous avez dit quoi, un bâton de...
Mais c'est pas un saucisson.
Juste un bridou.
J'ai dit le bâton de berger.
Ah oui.
Ils ont rajouté juste un bridou.
Ah oui, oui. Oh, c'est leur côté potable.
Est-ce qu'il a dû lire le...
Oui. Non,
une
Apollon.
Ah bah c'est un peu beaucoup Apollon. Ouais. Il y a peut-être un autre élément qui peut nous montrer que c'est Apollon d'ailleurs. Non, vous voyez pas ?
Non.
Un autre élément qui, je dirais, le désigne, c'est bien, quoi, comme étant Apollon. Il y a effectivement la lyre.
C'est pas caduché, ça,
c'est bel et bien le bâton de berger, vous savez, avec la partie recourbée pour récupérer les animaux.
C'est Mercure qui a
Mercure. Mercure,
mais c'est Mercure.
Oui,
Mercure.
Non, Mercure,
c'est Mercure.
Mercure a caducé,
mais ça, c'est normal.
Mercure a caducé.
Et suivant un chemin, je vous pense.
Il est nu.
Bah, il est beau.
Non, il est nu, il est beau, ce qui est normal, beau comme Apollon. Voilà, il peut être nu parce qu'il est beau, voilà. Donc ça compte.
Il a les cheveux.
Mais il y a un autre élément.
Il est blond.
Ah, il est blond. Je vois que généralement le soleil est Apollon, c'est plutôt blond. Oui. Alors, bah, on verra tout à l'heure ce que c'est. Ce genre, si vous aviez à qualifier cette peinture, vous diriez quoi? Tout ça. Pardon, vous avez dit.
C'est une peinture très claire, c'est pas caravagesque.
Alors c'est pas du tout caravagesque. Vraiment pas du tout. Donc on voit Caravage, il n'est pas. Enfin, voilà, tout le monde ne fait pas du caravagisme en Italie à l'époque. Hein. Donc c'est pas du tout de caravage.
C'est presque Renaissance, un peu.
Pardon.
C'est presque Renaissance.
Oui, si on veut, oui, il y a presque encore un côté, une sorte de souvenir du manier. Rappelez-moi ce que ça veut dire, maniérisme.
À la manière de...
Oui, mais de qui?
Des anciens.
Ce que maniérisme, ça veut dire à la manière d'un art particulier. Maniérisme, c'est pas... par exemple, on ne peut pas dire que, je ne sais pas moi, que Delacroix est maniériste par rapport à je ne sais pas qui, enfin, voilà.
Non, c'est par rapport à
des grands modèles.
Oui, mais quels grands modèles?
Les antiques.
Pardon?
Les antiques.
Non. Alors, pas les antiques. Non.
Pas Michel-Ange?
Alors, Michel-Ange, mais pas que.
Raphaël.
Et puis, le troisième?
Vinci.
Léonard. En fait, on appelle maniériste les peintres qui travaillent à la maniera, à la manière, si vous voulez, du trio gagnant de la peinture italienne de la Renaissance, que sont Michel-Ange, Raphaël et Léonard de Vinci. Donc effectivement, là, on a quelque chose qui est assez raphaélesque. Vous avez raison. Hein. Il y avait là une sorte de référence à Raphaël. Justement, qu'est-ce qui peut marquer ? Vous avez dit que c'était complètement différent de Caravage. Mais justement, qu'est-ce qui fait que c'est si différent de Caravage et si maniériste ?
Il y a un paysage.
Paysage, c'est vrai. C'est clair, on l'a vu. Le nuage, oui. Mais encore.
Le sujet.
Oui, Caravage peut faire des sujets avec des divinités. Hein. Simplement, il le fera complètement différemment. Et qu'est-ce qui sera différent ? Imaginez Caravage ait représenté ça. Qu'est-ce qu'il aurait fait ?
Caravage, il
n'a
jamais de paysage pratique.
Alors, d'abord, oui. Voilà. Caravage aurait fait ça comment ? Pardon ? Voilà. Alors, côté lumière, ça n'aurait pas été du tout pareil. Hein. Et puis, il aurait sans doute fait en gros plan. Absolument.
Il y a une perspective.
Oui, là, il y a une grande perspective. C'est le jour. Caravage, en général. On a parlé de l'obscur tout à l'heure. Hein. Caravage, alors, quelquefois, c'est un peu plus dur quand même, mais en général, Caravage, c'est la nuit, etc. Donc, toi, il y a une volonté de clair-obscur très forte, hein, qui est aussi une manière de révéler. Hein. Vous savez, on en avait parlé déjà X fois. L'idée de faire les clairs-obscurs, c'est aussi de révéler les choses. Hein. Quand il fait nuit, on ne voit rien. Si on allume, paf, ça révèle. Ben, pour les gens comme Caravage, c'est aussi une idée, si vous voulez. Faire les œuvres d'amitié et cordes. Révélé par la lumière, qui est une manière de nous révéler à nous qu'est-ce que c'est que le bien, vous voyez ce que je veux dire, hein, voilà, hein. C'est l'idée de la révélation. On doit, tout comme une pièce sombre est soudain allumée, et qu'on a la révélation de l'endroit où on est, le bien, la religion nous est révélée par la lumière, comme par hasard. Donc là, il n'y a plus tout ce problème-là.
J'avais une question, c'est quoi en fait la différence? Souvent on parle de ténébrisme aussi.
Oui.
C'est quoi la différence avec le clair-obscur?
Oh, c'est un peu la même chose. Hein. Oui, le ténébrisme, c'est ça.
Et c'est un mouvement qui a...
Alors oui, c'est, effectivement, c'est-à-dire que, pour faire simple, hein, grosso modo, à partir de Caravage, si vous voulez, cette idée du clair-obscur, du ténébrisme, va avoir un énorme succès. Hein. Alors, ça avait été un peu préparé. Hein. On pourrait voir, notamment dans la peinture, on en parlait tout à l'heure, flamande ou hollandaise du XVIe siècle, déjà, des aspects ténébristes. Hein, voilà. Mais si vous voulez, Caravage va rajouter une couche, en étant vraiment un ténébriste de chez les ténèbres, si j'ose dire, et en plus en alliant à ça une sorte de, et ça vous l'avez dit tout à l'heure bien, hein, de réalisme assez fort. Hein. Quelqu'un disait tout à l'heure, c'est très précis, c'est des sortes de portraits, etc. Donc vraiment, ça c'est aussi la grande idée caravagesque, hein, voilà, qui va faire que le ténébrisme de Caravage est particulièrement marqué, si j'ose dire. Voilà. Alors justement, si on continue, donc vous venez de dire que côté lumière, etc., couleur, c'est pas du tout pareil que Caravage, ok? Là, on est dans un maniérisme, je dirais, très, très, très clair, hein, exactement à l'inverse de ce que fait Caravage, mais quoi d'autre encore, peut-être?
Pas de réalisme.
Voilà, pas de réalisme, du tout. On est à l'opposé. Toutes ces divinités ont toutes plus ou moins la même tête. Alors, il y en a qui sont barbus, il y en a qui sont des femmes, des hommes, etc. Mais il y a un côté parfait, lissé, idéal, si vous voulez. Tout à l'heure, pour Caravage, vous avez dit c'est tous des portraits. Vous aviez raison. Caravage, même pour la Vierge à l'enfant, il a fait poser une fille et un gamin qui traînait dans la rue, si vous voulez. Voilà. Là, c'est pas du tout le cas. Là, l'auteur qui a fait ça, j'allais dire, idéalise, il n'a pas besoin de modèle, si vous voulez. Il fait des figures parfaites, Apollon est beau, Mercure est beau, Zeus est beau, Cronos est tout, le monde est beau et gentil. Et voilà, voilà. Hein. Vous voyez, donc il y a une sorte d'idéalisation parfaite. Donc la lumière, l'idéalisation, c'est absolument à l'opposé de ce que fait Caravage. Côté artiste, je pense que ça va être dur, mais je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a une idée? Non. Bon, allez, suivant.
C'est l'enlèvement des Sabines.
L'enlèvement des Sabines. Vous me rappelez ce qui se passe?
Oui, c'est
les Romains.
C'est les Romains. Voilà, qui sont des hommes.
Qui enlèvent les femmes, oui.
Oui, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de femmes chez elles.
Ils n'ont pas de femmes chez eux, oui.
Et donc, ils vont
chez leurs voisins, les savants, pour enlever leurs femmes, leurs filles, etc. Ils les violent, ils dorment chez eux. Et après, les Sabines, elles s'opposent à ce que les Sabins tuent ou se vengent sur ceux qui vont devenir leurs maris.
Voilà. Oui, sur ceux qui le sont même déjà, parce qu'il y a des enfants entre temps. Donc c'est ça, hein, les Romains, qui n'avaient en gros plus de femmes à se mettre sous la dent, si j'ose dire, pour perpétuer la race, hein, sont allés prendre des femmes chez les Sabins, d'où enlèvement des Sabines. Donc les Sabines sont devenues romaines, et effectivement, je ne sais pas, 50, 10 ans après, je ne sais plus ce que dit l'histoire, hein, les Sabins veulent aller récupérer les Sabines chez les Romains. Et ce sont les Sabines qui vont s'interposer, c'est le fameux tableau de David, le chef-d'œuvre du Louvre que vous connaissez tous, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, hein, qui vont s'interposer, qui vont empêcher que les Sabins et les Romains ne se tuent, parce que d'un côté, les Sabines avaient leur famille, d'où elles avaient été enlevées, hein, mais de l'autre, elles ont leur nouvelle famille, qui est les maris auxquels elles ont été de force mariées, avec les enfants correspondants. Donc les Sabines sont celles qui vont réussir à, je dirais, calmer, mettre la paix dans la guerre. Bien, parfait, très bien. Donc voilà un grand thème de l'histoire romaine, superbe, magnifique, exemplaire, tout ce que l'on veut. Bien. Qu'est-ce que vous dites, la manière de représenter ce drame extraordinaire,
hein. Le mouvement.
Exemplaire. Le mouvement.
Le mouvement.
La couleur.
Le mouvement aussi, une décomposition du mouvement.
Oui, décidément, le mouvement, c'est la grande affaire de ce tableau. Hein. Vraiment, si vous aviez à donner un qualificatif de courant artistique à un tableau comme ça, vous diriez quoi ?
Baroque.
Baroque. Ça, c'est un tableau baroque.
Avec les décors dans le fond.
Oui, alors dans le fond, effectivement, il y a les décors qui vont avec, vous avez raison. Les colonnes, le cubisme, il y a tout ce qu'il faut. On est dans l'Antiquité, vous avez raison, il faut insister absolument dessus. Très, très important. Donc, on est dans une œuvre super baroque. C'est quoi la grande ville du baroque en Italie ? Naples ?
Non, c'est Lecce.
Lecce ?
Florence.
Ok.
Il y a Noto en Sicile.
Alors, toute l'Italie est baroque, on est d'accord. Hein. Mais, et ça va durer d'ailleurs. Mais au XVIIe siècle, peut-être, alors Naples va jouer un certain rôle, hein, mais est-ce que par exemple, vous diriez que Caravage est baroque ?
Pas trop.
Caravage, c'est plutôt le ténébrisme, on en a parlé tout à l'heure. Hein, voilà. Donc, alors, il y a du mouvement aussi. Hein, on l'a vu avec les anges tout à l'heure, à participer à des œuvres de miséricorde. Hein. Mais c'est vrai qu'on aurait un peu de mal à dire c'est de l'âge baroque, d'accord. Parce que, en gros, le baroque, c'est quand même le 17e. Ça va continuer au 18e, vous êtes d'accord. Mais le grand siècle, l'invention du baroque, c'est le 17e. Donc, effectivement, Caravage n'est pas, on ne peut pas dire, c'est le peintre baroque. Mais donc, la grande ville baroque, finalement, celle qui va avoir...
Bologne, mais n'est quand même pas une grande ville.
Non.
Palerme.
Il y en a partout, encore une fois. Hein. Mais bon, la ville qui est un peu celle qui, voilà, qui fait un peu le... Je ne crois pas que vous l'ayez dit. Hein. Pardon.
Rome,
c'est vraiment. C'est aussi la ville des papes. Hein. Donc ça aide. Hein. Vraiment, la ville baroque, c'est Rome. Hein. Alors, cette œuvre, là aussi, je vous pose la question, vous avez une idée d'un nom ? C'est un peu compliqué, parce que la peinture italienne du XVIIe siècle, en France, on la connaît très mal. Donc c'est vrai qu'il y a plein de peintres, tous hyper talentueux. Ça, en Italie, c'est décourageant, tous les peintres sont doués. Enfin, bref, c'est plus à quel sens jouer, etc. Pardon ?
Carache,
ce serait une idée. Hein.
Rémi, il n'y a pas de peintre qui s'appelle Rémi.
Rémi, peut-être.
Rémi, Guido Rémi.
Guido Rémi, ouais. Peut-être.
Bah, alors, on va savoir si c'est
ça. On verra. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Donc, j'insiste pas trop sur les noms, parce que, encore une fois, on connaît mal ça. À part Caravage. Les peintres italiens du XVIIe, on les couvre. Hein. Bon, on est là pour justement combler le
film. Et puis il y a des Français qui sont venus à Rome pendant ce
temps-là. Ah, alors en plus, il y a effectivement des Français qui sont venus à Rome. Absolument. Et qui vraiment sont devenus plus romains et italiens que les Italiens eux-mêmes, quelque part.
On aura tous la
D'Avèze. Pardon.
Ça aura d'Avèze, non
Ah, le, oui, un côté radeau de la Méduse, là, ici. Hein?
Non, non, non.
Encore un enlèvement. Encore un enlèvement. Je suis désolé, hein, mesdames. C'est pour majorité ici. Pardon, l'enlèvement de d'Hélène. Pourquoi pas? Vous me rappelez de son dont il s'agit?
Paris.
Il emmène à Troyes. Très bien, absolument. Paris va enlever, faire enlever Hélène, qui était fort belle, la belle Hélène. Il va l'emmener à Troyes. Et c'est effectivement ce qui va être l'élément déclencheur de la guerre de Troie, parce que les Grecs vont voir récupérer Hélène, qui a été enlevée à Troie, qui était assez content d'être enlevée à Troie, mais enfin... Bon, elle a quand même fait un peu comme si...
Ça méritait pas 10 ans de guerre.
Pardon ? Ça méritait pas 10 ans de guerre. Bien, alors là, qu'est-ce que vous auriez aussi à dire sur cette œuvre ?
Alors, c'est un cadrage plus...
Ouais.
Plus serré.
Absolument.
Un peu plus
clair-obscur,
quand même.
Un peu plus clair-obscur, absolument.
Et assez réaliste, bravo.
Tout à fait. Bah, écoutez, en trois mots, vous avez dit, à mon avis, ce qu'il fallait dire. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout le cadrage large et ample du tableau précédent. On est au contraire dans un cadrage très serré. Vous parlez du cœur obscur, effectivement. Hélène est toute claire, alors que dans le fond, tout est noir. Hein. Et en plus, vous parlez de réalisme, c'est vrai. Dans le tableau précédent, on avait l'impression que les Valmiseurs avaient tous la même tête, d'une certaine manière. Hein. Alors que là, il y a, vous voyez, il y a les personnages, ils ont même les joues roses. Enfin voilà, on peut les caractériser, chacun d'entre eux. Il y a une dimension très réaliste. On ne cherche pas à montrer des beaux personnes à chauffer l'air, qui est belle. Hein, voilà.
C'est très vigoureux.
Très vigoureux. Il y a une espèce de dureté, d'âpreté, pour être.
Oui, hein. Ma main chauve.
Oui, absolument. C'est dire. J'ai bien passé pour savoir. Mais non, absolument. Mais ce que vous disiez, c'est juste. C'est-à-dire que dans le tableau, vous savez, des dieux de l'Olympe, si Cronos était chaud, je crois. Hein. Mais voilà, généralement, on a des dieux avec des petits cheveux, etc. Quoi. Voilà. Là, ce n'est pas du tout le cas. Hein. Mais on assume, parce qu'on est quelques-uns ici. Hein. Oui, moi non plus. Bien. Ok, très bien. Là aussi, une idée, non?
Non.
Bon.
Ah,
c'est
joli.
Pardon. Sainte Cécile, une sainte musicienne. C'est Sainte Cécile. Vous savez que Sainte Cécile, la sainte des musiciennes, enfin la patronne des musiciens. Donc c'est elle. Alors là, vous auriez un petit détail iconographique, sympathique.
Il y a un lys.
Pourquoi? Voilà, virginité, pureté, le lys, c'est toujours avec la Vierge. Là, il est avec Sainte-Cécile, parce que même combat. Hein. Et oui, vous auriez là aussi à caractériser cette œuvre à nouveau. C'est un peu répétitif ce que je vous demande, hein, mais si on tape sur un clou, on fait rentrer dans du bois. Hein. Bon. Peut-être pas très heureux, mais enfin bref. C'est sorti.
Bah, ça rappellerait un peu les Raphaël.
Oui, oui. Donc vous mettriez...
Avec du contraste.
Voilà, vous mettriez ça dans les maniérismes, on va dire. Ça nous rappelle un peu la scène mythologique du départ, même si ça, c'est pas mythologique, mais religieux. Mais on est un peu plus ferme, on va dire, peut-être.
Ça vous va, contraste à l'arrière.
Voilà. Peut-être plus contrasté, un peu moins doucereux, pourrait-on dire.
Ça ressemble
à Botticellien. Ouais. Oui, voilà, quelque part, c'est un peu plus Botticellien que Raphaël.
Oui, c'est bizarrement coupé.
Bizarrement coupé, oui, c'est coupé là aussi au niveau de la taille. Et puis, alors, c'est coupé sur les côtés, c'est peut-être ça qui vaut.
Oui, enfin, c'est un octogone.
Voilà, c'est un polygone, un octogone. C'était fait aussi pour... Le fait de découper ça peut... correspondent à un type de décor. Hein. Quelquefois, on a une place, un polygone, bah, enfin, mais ça peut donner quand même une sorte de préciosité particulière. Hein. Un tableau rectangulaire au carré, c'est carré ou rectangulaire. Vous coupez les bords, tout de suite, ça donne une touche, vous voyez, une patte. Vous faites un cadre polygonal, ça donne une sorte de préciosité un peu particulière. C'est effectivement à prendre en compte. Très bien.
Ça
C'est un plafond.
C'est un grand décor.
Un grand décor.
Très baroque.
Très baroque.
Très baroque.
Super baroque.
Parce qu'il y a des anges.
Ouais.
Les anges, les personnages.
Ah oui. Ah oui, on ne sait plus où on en est. Très lumineux. Qu'est-ce que ça peut vous présenter ? Vous avez une petite idée ?
Une apothéose.
Pardon ?
Une apothéose.
Une apothéose quelconque, oui. Ou une quelconque apothéose.
Il n'y a pas l'enfer et le paradis.
Aussi. C'est vrai qu'on aurait envie de voir un peu l'enfer et le paradis. C'est vrai qu'il y a peut-être là... Ouais, je crois que c'est assez juste. Hein. Ouais. Je crois que là, il y a... Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'enfer. Ouais, de l'enfer.
Ce sera un jugement dernier.
Alors, c'est pas vraiment un jugement dernier, même si, effectivement, au premier plan, il y a quelque chose d'un peu infernal. Enfin, c'est précisément un autre sujet, mais enfin, bon. Le focus, si j'ose dire, il est où l'élément central.
La lumière.
Oui, c'est la lumière. Hein. Là, c'est la lumière. Donc, on regarde tous et tout le monde regarde par là. Et cette lumière, c'est quoi ?
Dieu.
C'est Dieu, ouais.
Saint-Esprit.
C'est la sorte de vision trinitaire. Bon.
Il y a une forte impression de relief aussi.
Très forte impression de relief.
Trompe-l'œil.
Tiens, on a fait faire un atelier sur les trompe-l'œil aussi.
Ah, oui.
C'est ça pour les gens.
On avait fait l'anamorphose.
Voilà, sur les anamorphoses, les trompe-l'œil, etc. On a fait 5 séances là-dessus. C'est pas mal d'ailleurs.
C'était bien.
Ouais. Bon, on ferme la parenthèse. Et effectivement, donc, trompe-l'œil. Hein. Vous voyez, parce qu'il y a même des nuages qui sortent de la voûte et qui font de l'ombre sur l'architecture, qui est d'ailleurs une fausse architecture. Tout est faux. Tout est du trompe-l'œil. Tout est du trompe-l'œil. Même l'architecture, c'est du faux. Enfin, c'est du faux. C'est vraiment plein. Mais
c'est de la peinture.
C'est de la peinture. Okay.
C'est un plafond.
C'est un plafond. C'est un plafond. C'est un plafond voûté.
Voûté.
Hein.
Une église.
Une église. Donc là, c'est pareil. Hein. Vous l'avez dit de départ, ça, c'est baroque. Hein. Donc, à votre avis, c'est dans quelle ville ?
Rome.
Bravo. Là, je vous ai un peu
aiguillé.
Oui, ça vous dit quelque chose ? Ouais.
L'église de Saint-Ignace de Loyola, quelque chose comme ça. Non ?
Alors, c'en est une, c'est ma mémoire est bonne, où il y a un décor de genre là. Mais celle-là, c'est encore une autre, dont le nom d'ailleurs, le nom de l'église, correspond à ce qui est représenté sur la voûte. Là. Ah. Vous avez dit que c'est un triomphe, c'est vrai. Et c'est le triomphe de ce qu'il y a là, alors qui est un peu, effectivement, la Sainte Trinité, mais qui est un des éléments de la Sainte Trinité particulier.
Saint-Esprit.
Alors, c'est pas Saint-Esprit.
Dieu le Père.
C'est pas Dieu le Père.
Eh bien, il reste le Christ.
Il reste le Christ. Le Christ, il a un autre nom.
Jésus.
De l'enfant Jésus. Alors, ça, c'est une peinture qui s'appelle le triomphe du nom de Jésus. Oui, parce que là, ça se voit pas trop, mais vous avez, si vous voulez, le nom de Jésus, là, la croix qui est évoquée, etc. Hein. Voilà, de toute façon, c'est tellement clair qu'on n'y voit rien. Et l'église à Rome, où ça se trouve, elle s'appelle l'église du Jésus.
Voilà.
L'église du Jésus à Rome.
Jésuite, alors.
Absolument. Voilà. Donc, c'est l'église du Jésus, c'est là que se trouve cette peinture absolument extraordinaire. Alors, ce qui est aussi curieux, c'est que, d'ailleurs, ça se voit, certains éléments sont en stuc, par contre.
Hein.
Il y a certains anges qui, eux, sont en stuc. Donc ça vous brouille encore plus les pistes. C'est-à-dire que l'architecture est plate, alors que les anges, qui devraient être peints comme les autres anges, eux, sont en stuc, en relief. Vous voyez, vous êtes paumés, quoi.
C'est baroque.
Très. C'est baroque.
Adorière.
Chassé du paradis. Bon, vous savez pourquoi, hein. Ils ont fait une grosse bêtise. Elle a cueilli la pomme, il a croqué la pomme. Les deux ex aequo ont fait une grosse bêtise. Donc,
c'est pas moi, c'est l'autre.
Voilà.
Oui, c'est
un peu ça. Pardon ?
C'est pas moi.
Oui, c'est un peu, c'est pas moi, c'est elle. En gros, il caffe. Oui, oui, je trouve que.
Ouais. Qui va à bonne
honneur.
C'est pas
pas le bon dieu.
Vous regardez trop la télévision. Voilà. Le fait est que c'est assez curieux. Cela dit, ce Dieu le Père qui est là, avec ce doigt pointé.
Effectivement.
Exactement. Ça vous rappelle le Dieu le Père de Michel-Ange dans Saint Sixtine. C'est celui qui touche la main d'Adam. C'est absolument la reprise. Alors justement, cette œuvre, vous la mettriez avec quel genre d'œuvre qu'on aurait déjà vu?
La deuxième,
c'était la première d'ailleurs. Enfin, la deuxième après Caravage, oui. Voilà, donc vous mettriez ça dans le même panier, si j'ose dire, que les dieux de l'Olympe avec. De quoi qu'est-ce que vous disiez là?
Les anges,
là. Oui.
Ils n'ont pas d'ailes.
Non, ils n'ont pas d'ailes. Oh, ben vous savez.
Si, ils ont des ailes.
Il y en a qui n'en ont pas, hein.
Ils ont
ces
dégâts,
les trois.
Ceux-là,
ils
n'en
ont pas.
Non, les trois.
Alors, il y a ce qu'on appelle des anges, et puis il y a des séraphins. Les séraphins, c'est des têtes d'anges avec des petites ailes. Il y a aussi des chérubins. Alors attendez, non, c'est des chérubins. Et ça, c'est des chérubins. Les séraphins, ils ont trois paires d'ailes. Voilà, six ailes. Donc les chérubins, c'est deux. Les chérubins, c'est deux petites ailes à chaque côté de la tête. Les séraphins, c'est deux. C'est trois paires d'ailes. Voilà. Donc ça, c'est des chérubins.
Okay. C'est habituel de présenter les chérubins comme ça?
Ah oui. Tous les chérubins sont comme ça. Une tête, deux ailes. Oui. Oh, il y en a des pléthores. C'est les séraphins qui sont un peu moins fréquents. Mais les chérubins, une tête avec des petites ailes, ça se voit bien.
Et quel est le symbole, ces chérubins?
C'est un autre genre d'ange. Il y a une sorte de hiérarchie des anges. Alors parce qu'en plus de ça, il y en a encore d'autres. Hein. Mais il y a les archanges, par exemple. Hein. Voilà. Gabriel,
Michel,
c'est sûr. Hein. Voilà, donc il y a une sorte de hiérarchie angélique qui fait que il y a des chefs anges, il y a des anges un peu moins chers. Donc ça, c'est des anges un peu moins chers que les autres. On a trois, oui. Donc il y a des vrais anges, et puis il y a même des anges changels, encore une fois. Bien. Ça vous aura fait parler. Ensuite.
C'est Caravage.
Là, on a l'impression vraiment d'être devant Caravage.
Ouais.
Ça représente quoi?
On ne sait pas.
Jésus chassant les marchands du temple. Bravo, très bien. Et donc, très caravagesque. En deux mots, caravagesque pourquoi?
Clair
obscur.
Cadrage serré.
Visage très réaliste. Bravo. Super. Ouais. Bon, écoutez, voilà, vous avez...
Force dans les mouvements, violence...
Oui, voilà, une sorte de brutalité, d'âpreté dans le mouvement. Hein. Parce que, vous rappelez, l'arrivée des Sabines tout à l'heure, c'était pas rigolo non plus, hein. Mais il y avait un côté chorégraphique, vous voyez ce que je veux dire? Tout comme avec la voûte du Jésus, hein, on a l'impression d'une espèce de danse, ça, c'est brutal, et en même temps, c'est chorégraphié. Là, il y a une sorte de dureté.
Comme une photo.
Voilà, c'est ça, il y a un côté instantané, hein, ouais. Absolument. Bien, bravo. L'auteur?
Caravage
lui-même. Oui.
Un
côté un peu naïf. Ça lui aurait pas fait plaisir, mais.
C'est pas réaliste.
Alors, pas réaliste, effectivement. Je crois que c'est ce que vous voulez dire aussi quand vous dites naïf. Le côté comme ça. Effectivement, je trouve qu'il y a cette dimension-là. Pas réaliste du tout, quelque part. Et ça, effectivement, il y a un côté entre guillemets naïf.
Ils ont les mêmes bouclettes.
Donc, j'ai bien compris que vous le mettiez plutôt avec notre tableau avec Dieu le Père, là, et puis avec les dieux de l'Olympe tout à l'heure. Voilà, ok, très bien.
Mais qu'est-ce que ça représente?
Eh bien, voilà, j'allais vous poser la question, mais maintenant, j'ai même plus besoin de poser la question.
C'est un repas.
Il y a Jésus qui arrive, non? Et puis qu'ils le reconnaissent.
Non. Il n'y en a qu'un qui. Non, deux qui le voient.
Ils sont en train. C'est Jésus. Bon, il y a de la vaisselle par terre.
C'est Jésus qui doit se faire reconnaître, non?
Ah, c'est le Jésus, il est pèlerin d'Emmaüs,
oui,
c'est ça?
Ah, c'est ça. Oui. Bon, ils sont jeunes pour être des pèlerins d'Emmaüs.
Oui, mais comme là...
Il n'y a pas d'âge pour être pèlerin.
Ils sont pas l'air d'Emmaüs, ils sont pèlerins, ils sont chaussés. Ah ben, le pèlerin...
Ah, ils ont enlevé leurs chaussures pour
marcher. Un pèlerin d'Emmaüs.
Mais il faut faire attention, parce que les pieds peuvent gonfler.
Il n'y a pas de stigmate.
Pardon?
Il n'y a pas de stigmate.
Ben non. Effectivement, ça c'est un peu embêtant. Hein. Donc, ouais, peut-être pas le barré côté pèlerin des Emmaüs. Ouais. Et si c'est un thème qu'on avait déjà vu récemment, pas aujourd'hui. Hein.
C'est une scène de l'Ancien Testament.
Ouais.
Ah.
Alors, c'est pas dans la vaisselle qui avait été volée.
Non.
Non, c'est Abraham qui voit les trois anges.
Eh ben voilà.
Ah oui, Abraham et les trois anges.
Rappelez-vous la fois dernière, on a vu ça, représenté par Rembrandt. C'est l'épisode d'Abraham et les trois anges. Je vous allais dire, ils n'ont pas d'ailes. Ben oui. Mais vous savez, les anges n'ont pas toujours d'ailes. On a vu qu'il y avait des hiérarchies angéliques terribles je ne suis pas sûr que les anges existent, hein. Par vous, Pierre-Mette. Donc, si vous voulez, on fait un peu ce qu'on veut, mais dans la hiérarchie angélique, picturale, etc., il y a des anges qui ont des ailes, qui n'ont pas d'ailes. On vient d'en voir des anges qui ont des ailes. Hein. Ben là, c'est trois anges. Et c'est Abraham, évidemment, qui reçoit les trois anges. Vous savez qu'un jour, Abraham, qui est ce patriarche ancien testament, voit arriver trois anges, il va les recevoir avec son épouse qui est derrière. Hein, qui...
Cachée, oui, cachée.
Et voilà.
Sarah.
Voilà. Donc c'est... très bien. Donc vous m'avez classé ça avec... on l'a vu avec... bien.
Ah oui, c'est Cléopâtre.
C'est la mort de Cléopâtre.
La mort de Cléopâtre. Bien. Bon. Mais qu'est-ce que vous auriez... Ah non, c'est vrai qu'on ne la verrait pas comme ça, Cléopâtre. Hein. C'est très singulier.
Elle a une couronne.
Une petite couronne. Donc on voit que c'est une reine, quoi. Voilà. Mais ça, c'est assez singulier. Et... veux-je dire, c'est, je sais pas, oui, vous auriez à dire quoi concernant le style entre guillemets de cette œuvre, ça.
Il n'y a pas de fond du tout.
Le fond est complètement noir. Il y a rien. C'est très étrange.
Le fauteuil n'est pas très égyptien.
Oui, on peut pas dire que ce soit très égyptien. Hein.
Les servantes, elles se ressemblent.
Oui, on a.
Les trois servantes de Gaël, elles se ressemblent.
En tout cas, ces deux-là.
Ah, oui, même la troisième.
Oui, la troisième à droite, vous trouvez aussi. Ok. Et qu'est-ce qui vous frappe encore là-dedans?
Il y en a pas mal qui sont nus.
Oui, tout le monde est nu. Ça, c'est égyptien.
Presque.
Les couleurs. Chromatisme quand même assez fort.
Oui, les chairs sont très blanches. Quand même.
Les chairs très blanches.
Et le rouge, le velours rouge.
Alors plutôt, vous verriez ça plutôt côté Caravage, obscur ténébrisme, plutôt côté maniériste, nos dieux d'Olympe de tout à l'heure, tous mignons, etc.
Non plus.
Ou bien plutôt baroque.
Non plus.
Donc vous verriez quelque chose d'un peu différent de tout ça. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a un peu de tout et en même temps c'est différent. Non. Enfin, c'est ce que j'ai un peu entendu de.
Oui, il y a le noir.
Ouais, c'est ça.
Avec le blanc, les visages un peu gentillés du maniérisme. Oui, c'est un petit mélange.
Une sorte de mélange de tout et rien d'identique à ce qu'on a vu.
Non.
Ok. Super. Je ne vous demande pas le nom.
Non,
ne demandez pas. Je ne demande pas.
Ça
instantané.
Oui.
Ouais.
Ouais.
Photographie.
Ouais, d'un côté très photographique, c'est vrai. Donc très réaliste.
Très réaliste.
Très réaliste. Ça représente quoi?
Elle se fait une natte.
Pardon?
Elle se fait une
natte.
Elle se coiffe. Terminer sa natte.
Fait une
natte. Elle se fait
une natte. Et en se faisant la natte, qu'est-ce qu'elle fait?
Elle chante.
Elle chante. Donc elle chante en se faisant la natte. Comme vous disiez que c'était un instantané, je vous aurais pris sur le vif là. Hein. Tout à l'heure déjà, on nous parlait d'un instantané photo, c'est un peu ça, hein. Très photographique. Hein. Ok. Alors là c'est pareil, vous mettriez ça de quel côté? Baroque, maniériste, plutôt ou caravagesque?
Non,
non.
Non.
Trop clair. Oui, enfin clair.
Pour la lumière, quand même un côté Caravage.
Un côté Caravage, moi je trouve. Hein. Oui. D'abord, c'est hyper réaliste, hein, c'est pas moi qui le dis. Et il y a quand même un visage très éclair. Alors, le fond est brun et brun foncé, d'accord, c'est pas noir. Hein, même pas clair, clair, clair. Quoi. On ne peut pas dire que derrière, il y a des petites montagnes avec des petits arbustes, comme notre Dieu le Père dit tout à l'heure. Hein.
Les couleurs ne sont pas variées. Ça.
Et les couleurs ne sont pas variées, c'est quasiment monochrome. Hein.
Oui, puis il y a de l'ombre derrière.
Oui. En plus.
Derrière son profil. Dans son
cou. Bien, bien, bien.
Caravage.
Caravage, finalement.
Alors, oula, c'est très centré.
Ah, ça, c'est Jésus. Alors, qu'est-ce que ça représente, ça?
Jésus.
Jésus. Alors, Jésus, pardon. Oui, Jésus.
C'est la femme adultère.
Ah. Peut-être la femme adultère, oui.
Qu'est-ce qui se passe, vous rappelez?
Elle est accusée.
Mais elle doit être lapidée.
Voilà, elle est accusée, elle est lapidée.
De celui qui n'a jamais péché lui lance la première
pierre. Exactement. Hein. Que celui qui n'a jamais péché lui jette ou lui lance la première pierre. Absolument. Hein. Très belle histoire. Voilà. Parce qu'évidemment, ils veulent lapider cette femme. Et Jésus s'interpose et demande ça. Vous voyez le mec à droite qui est en train de dire elle a fait ci, elle a fait ça, ça, ça. Et je lui dis donc tu ne feras pas, on en reparlera. Bien. Qu'est-ce que vous auriez à dire là sur ce tableau?
Ah si.
Là aussi, vous le classeriez avec quoi?
Réaliste.
Réaliste.
Lumière.
Il y a un travail autour de la tête du Christ, c'est presque une auréole.
Oui,
pas
oui, oui. Oui.
Un
travail,
de lumière.
Le casque est très net. On pourrait presque l'imaginer.
Oui. Donc ce que vous retenez surtout, c'est le côté réaliste, si je comprends bien.
Réaliste.
Oui. Ouais.
On a l'impression qu'il y a deux peintres.
Deux peintres?
Je trouve que les profils du soldat et de la
femme,
sont presque plus travaillés que le Christ lui-même. Enfin, je sais pas.
Oui, plus affirmé.
Je veux dire,
plus, je sais pas.
L'autre qui fait plus chaud.
Un autre pinceau. Je sais pas.
Non. Vous avez un peu l'impression de deux mains, quoi.
Oui.
Enfin, de deux mains.
Hein.
Oui. Ok.
Marie-Madeleine.
Marie-Madeleine. Pénitente dans sa grotte. Alors là aussi, vous voyez ça de quel côté? Vous auriez, comment vous caractériseriez tout cela?
Plutôt maniériste, parce qu'on va dire plutôt maniériste.
Et cette Sainte-Madeleine, vous la définiriez comment?
Le vêtement avec tout ce mouvement.
Oui.
Assez baroque.
Oui, oui, effectivement.
Oui, c'est trop d'art.
Et vous la voyez, vous dites, bah oui, voilà quelqu'un qui est au désert depuis 40 ans et qui
c'est pas réaliste.
Donc décidément, ça nous fait penser à ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est... Donc cette manière un peu idéalisée de montrer une sainte qui croupit dans sa grotte depuis... Dans la réalité, entre guillemets, c'est depuis très longtemps. Mais là, on n'a pas l'impression. Et là.
Sainte-Thérèse d'Avila.
Alors, on va lancer Sainte-Thérèse d'Avila. Mais il se passe quoi, en tout cas?
C'est l'apparition de Paris.
L'apparition. Une extase. Une extase. Vous voyez que la sainte qui est là, peut-être Sainte-Thérèse d'Avila, hein, voit effectivement le Christ lui apparaître et
elle se parle.
Alors ça c'est pareil, vous mettez ça de quel côté? Baroque. Okay. Cette espèce de chorégraphie dont on a déjà parlé tout à l'heure. Tiens, et ça?
Ça, c'est un reniement de Saint-Pierre.
Le reniement de Saint-Pierre.
Il a la clé.
Donc, c'est bel et bien Saint-Pierre. Il a la clé à la main. Saint-Pierre, il a les clés du paradis. Pardon?
Délivré de sa prison.
Ah, c'est Saint-Pierre délivré de la prison. Je vous disais que Saint-Pierre a été mis en prison. Et voilà, un ange est venu le délivrer.
Mais il y a eu un tremblement de terre aussi.
Oui. Oui. Et donc l'ange, là, emmène Saint-Pierre de la prison, d'autant que les soldats dorment, l'ange s'est débrouillé. Là, c'est un vrai ange avec des ailes. Hein. Ouf, enfin. Hein. Alors, vous mettez ça dans quel courant, là-dessus?
Caravage.
Caravage. Ce côté lumière, l'air obscur. Réalisme, hein, la tête de Saint-Pierre, voilà. Hein. Les soldats, on ne peut pas dire qu'ils aient des attitudes très distinguées. Hein. Voilà. Ça ronfle sec, même. Enfin, voilà, il y a un côté un peu... Voilà, bon. Oui, voilà, effectivement, il y a quelque chose d'absolument... Ouais, c'est impeccable.
Oui, on dirait plus une statue.
Ah, il y a un côté statue, il y a un côté lisse, porcelainé. Ouais. Parfait.
Elle n'a pas d'expression.
Ouais, non.
Mais c'est une peinture.
C'est une peinture. Ouais, une peinture. Ouais. Donc là aussi, vous mettez ça de quel côté, peut-être?
Baroque.
Oui, c'est baroque. Non, c'est possible. Il y a du mouvement dans les
peintures. Il y a un drapage.
Oui, il y a du mouvement, c'est assez sage. Hein. Quant au visage de la Vierge...
Impassible.
Ah, ça recueille, oui. Très idéalisé, oui. C'est vraiment... Il n'y a rien qui dépasse. Allez, on continue de voir les derniers. Ah, il y en a un qui meurt.
Qui pleure.
Ah oui, on pleure, il y en a un qui meurt, c'est triste.
C'est Romain. C'est baroque.
Donc il y a un personnage qui meurt, des gens qui pleurent tout autour, qui se...
Des soldats.
Oui, des soldats, c'est romain, c'est antique. C'est grandiose. C'est clair.
Il y a
du décor, c'est très clair. On voit l'homme qui meurt, la femme qui pleure, tout autour des soldats qui pleurent ou qui se désespèrent ou qui font appel au courage, que sais-je encore. Hein. C'est clairissime.
Et puis, il y a de femmes qui... Enfin, elles sont un peu orientales, les femmes.
Oui. Donc,
par rapport aux soldats.
Oui, un petit peu
orientales. Parce que les romaines, elles ne sont pas comme ça, d'habitude.
Ben, celle qui pleure, elle est bien romaine, quand même. Hein. Oui, on croirait qu'elle est sortie des stèles antiques.
Mais il n'y a que celle-là, d'ailleurs, de femmes, non?
Ah, mais non, il y en a.
Non, il y en a
une derrière. Il y a des enfants.
Donc, baroque?
Baroque, oui.
Comme l'enlèvement des Sabines de tout à l'heure?
Oui,
ouais.
Un peu moins.
Un nom peut-être? Non. Un nom, non. Bacchus. Ça, c'est Caravagesque. Ah, là, il n'y a pas de problème, c'est Caravagesque. Hein. Ça présente quoi? L'ivresse de Bacchus. Voilà. Tout simplement, il y a des. Vous voyez, il y a des satires. Voilà, là, rien, il y a un âne qui brève, enfin voilà, c'est bon ça. Et il y a Bacchus qui boit un verre de plus, qui en a déjà pas mal bu, semble-t-il. Bon, donc là, hein, c'est quelque chose, hein. Donc quelque chose de très brutalement caravagesque.
Très réaliste.
Une sorte d'hyper-réalisme un peu poisseux, là, hein.
Ah, ça, c'est Lucrèce qui se suicide.
Ah, c'est Lucrèce qui se suicide parce qu'elle s'est fait violer par Tarquin, donc elle se suicide.
C'est pas ça,
oui. Ah ben, je sais pas, moi. C'est vous qui le dites. Moi, je ne fais que répéter, vous savez.
Oui, parce qu'il y a de la plainte.
C'est ça.
Ah oui, elle regarde en l'air. Ben oui, c'est quand même dur, ou pas. Elle tient effectivement l'épée. On sent que ça a mal se passer. Hein. Voilà. Alors ça, vous mettez dans quel élément de la typologie que l'on esquisse depuis quelque temps? Caravagisme,
non.
Baroque, maniérisme, autre chose.
Plutôt maniériste.
Pardon ? Autre chose. La rubrique autre chose. Elle est assez pratique. Allez, un petit dernier avant de relever les copies.
Là, c'est
réaliste. Caravagesque, réaliste.
C'est Toby.
Ah.
C'est pas Toby.
Ah, si, le poisson.
Ah, le poisson, oui.
Rappelez la fois dernière, on a parlé de ça. Hein. D'ailleurs, vous allez me rappeler quelle est l'histoire.
Le fiel du poisson.
Alors, c'est le père de Toby qui était aveugle.
Ouais.
Et puis, il fallait que Toby prenne le, je ne sais pas trop quoi, du poisson.
Le fiel
du poisson, voilà. Et puis, pour guérir son père. Et il l'apporte à son père pour le guérir.
Exactement. Et là, il est en train de mettre le fiel du poisson sur les yeux de son père. Et son père est en train de recouvrer la vue.
Voilà. Et il est aidé par l'archange Raphaël.
Mais c'est ça, par l'archange Raphaël, que vous voyez derrière avec des ailes.
Il y a une histoire de chien. Il y a un chien qui est toujours dans le...
Qui donne un côté très quotidien, très réaliste.
Non, mais je crois que dans l'histoire, mais dans l'autre...
C'est possible, effectivement.
Est-ce que c'est pour ça qu'on appelle toujours les chiens Toby?
Ah, peut-être. Je n'ai jamais posé la question. Faites bien de me le dire. C'est trop mignon. Bien. Alors.
C'est un bon droit.
Bon.
Michel a dit non.
Bien, là, pas de problème, je fais entièrement confiance. Bien. Alors, on va enlever les copies, là. J'ai remis les... Alors, je ne vous ai pas trop demandé les noms des peintres, parce que vous m'avez dit quelquefois, quand même. Hein. Mais, encore une fois, c'est pas... Bon, c'est un peu compliqué. Là, je les ai regroupés un peu par école, sachant qu'on a, grosso modo, déterminé trois éléments du 5-4e. On a parlé du baroque. On a parlé du caravagisme, on va dire, et on a parlé du côté idéal, on a qualifié de maniériste, etc., puis on a dit qu'il y avait un peu autre chose. Le baroque, on l'a vu, le grand sens, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de choses baroques ailleurs en Italie. Le grand sens, c'est quand même Rome. Hein. Je ne dirais pas que c'est là que tout se fait, que tout se passe, mais ça va être quand même une ville un peu pilote dans le domaine de la peinture baroque. Mais pas tout à fait que, nous allons le voir. Il y a également un autre lieu où Caravage a beaucoup travaillé et où il va, là, un peu là, après son passage à Rome, exposer ses Naples. D'ailleurs, rappelez, les œuvres miséricordes sont à Naples. Hein. Et Naples va être un grand, grand lieu de caravagisme et de ses peintures clair-obscur, ténébristes, dont on a parlé tout à l'heure. Il y a une troisième ville qui va plutôt donner dans le genre doucereux, maniériste, ça, c'est Bologne. Bologne, qui travaille beaucoup dans le sens de cette espèce de joliesse idéale, tellement parfaite au niveau aussi des coloris, des paysages, etc. Ça, c'est un peu les trois, je dis pas qu'il y a ces trois-là, hein, mais trois des grands centres liés à des courants, si vous voulez, qui se partagent, entre guillemets, la peinture en idée à l'époque. Donc moi, j'ai regroupé ça autour de ça, puis il y aura un quatrième chapitre qui concerne plutôt les autres.
Voilà,
on a classé quelques personnes qu'on n'avait pas classé ailleurs. Bien. Alors Rome, qui est le lieu effectivement du baroque. Alors vous avez bien vu, hein, ça c'est un peintre qui s'appelle Lanfranco. Les 20 artistes, je connais une vingtaine, hein, sont vraiment quelques-uns des plus grands noms de la peinture en Italie au XVIIe. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Et comme je vous dis, l'Italie c'est décourageant parce qu'il n'y a que des peintres importants. Il y a peu de peintres, ils soient un peu terribles. Il y a d'ailleurs ces fous nombres de peintres importants. C'est une nation d'un dynamisme pictural extravagant. Hein, bon. Et c'est vrai au XVIIe aussi. Bien. Voilà une œuvre de Lanfranco, qui est un des grands peintres baroques de la Rome du temps. C'est l'extase de Sainte-Marguerite de Cortone. Voilà. C'est une extase. Il y en a plein qui sont extasiés. Bon, c'est vrai, quand on voit le Christ arriver, elle peut s'extasier, mais voilà. Donc elle est extatique. Voilà. Bien. Œuvre baroque, tout comme ça, effectivement. Voilà une œuvre, justement, de Pietro Bellini, qu'on appelle Pierre de Cortone, justement. Pierre de Cortone, c'est, comme Lanfranco, un des grands peintres du baroque romain. Vraiment, c'est des gens qui tiennent un peu le haut du pavé dans cette Rome de la première moitié du XVIIe. Ça, vous ne le trouviez pas très baroque. Moi, je trouve que c'est très baroque. Et c'est pas Lucrèce, c'est Didon. C'est Didon va être abandonné par Aîné. Et vous voyez dans le fond la mer avec Aîné qui s'en va, vous savez, que c'est lui qui se traîne. Hein, Didon Aîné, Purcell, vous connaissez tout ça. Hein. Remember me, etc. Ben voilà, c'est ça. Je ne vais pas vous chanter ça, mais voilà. Elle est en train, là, de pleurer. Elle voit Aîné qui s'en va et elle va se suicider. C'est la mort de Didon. C'est quand même une œuvre d'Andrea Sacchi, un de ses artistes également important du baroque romain au XVIIe siècle. Alors évidemment, si vous voulez, l'œuvre est plus ramassée que les Sabines ou l'Extase. Enfin, on a quand même là, notamment la manière dont les plis, la dramatisation de la scène, qui a quelque chose qui tient, si j'ose dire, de cette optique baroque. Et bien entendu, super baroque et ça. C'est-à-dire la peinture du Jésus, on en a parlé tout à l'heure, qui est due à un artiste qui s'appelle Gaoli, mais qu'on surnommait Baccio, et qui a donc réalisé cet extraordinaire triomphe du nom de Jésus. Le problème, c'est que si à Rome, au XVIIe siècle, le courant baroque va avoir une importance capitale, il va y avoir, j'allais dire, un courant un peu rival, qui est celui de classique. Vous savez, il y a En Europe à l'époque, et Rome en est un des creusets, de gros conflits entre les baroques et les classiques. Hein, ça a d'ailleurs existé en France de la même manière, notamment la littérature. Hein. Et vous faisiez allusion tout à l'heure au fait qu'il y a des artistes non italiens qui vont beaucoup travailler en Italie. C'est le cas de Poussin, qui a plus travaillé en Italie qu'en France. Hein. Et là, on a un tableau, alors, à l'époque baroque, au XVIIe siècle, mais très classique. C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout une espèce de mouvement échevelé dans tous les sens. Poussin, c'est du classique. C'est-à-dire que, d'ailleurs, vous l'avez vu tout à l'heure, dès que vous avez vu, il y a un mec qui meurt, on le pleure, etc. Vous avez tout vu en une seconde, alors que les autres vont raconter. Poussin, c'est nickel. Si vous voulez. Il y a des figures, paf, 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 les unes à côté des autres. Chacune a une expression qui fait que si on regarde, on la comprend. Il y a celui qui pleure, il y a celui qui se lamente, il y a celui qui est en train de raconter les exploits du général romain Germanicus qui est en train de mourir, sa femme meurt. Enfin bref, chacun a une expression, le tout dans une espèce de décor taillé au cordeau. Si vous voulez, on est au XVIIe siècle, hein, donc il y a des choses un peu comparables avec le baroque, mais dans quelque chose qui est classique, qui est réglé, si vous voulez, qui tient d'une sorte d'organisation aussi bien de la structuration de la scène que de ce qui est montré. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il va y avoir également à Rome des caravagesques. Parce que Caravage, il est passé par Rome. Et de toute façon, Caravage, il a, j'allais dire, comme une traînée de poudre, il a laissé des traces sur son passage. Vous voyez ce que je veux dire? Et par exemple, à Rome, il va avoir un disciple qui s'appelle Bartolomeo Manfredi, qui va faire à Rome du Caravage. Vous voyez ce que je veux dire? Manfredi meurt assez tôt, d'ailleurs. Hein, mais voilà, il va y avoir, si vous voulez, derrière Caravage, comme ça, un certain nombre de ses disciples, notamment à Rome, qui vont continuer, après Caravage, la tradition caravagesque. Donc vous voyez, tout n'est pas simple non plus. Hein. Il n'y a pas Naples et caravagesque, Rome les baroques. Ce que je vous montrais, c'est qu'il y a des grands centres, mais qui sont, voilà, un peu, comment vous dire, pimentés par des choses un peu différentes. Ok ? D'ailleurs, ça...
Oui. Caravage, il avait des ateliers où il formait des élèves
Il formait des élèves, oui. Oui, absolument. Mais ce n'est pas des ateliers, vous voyez, avec 50 personnes, c'est par Rubens. Hein. Il a 2-3 copains avec qui il travaille, voilà. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. C'est plus... je ne sais pas si même le mot d'atelier pour Caravage est vraiment pertinent. C'est des amis, voilà. Vous voyez, c'est quelque chose de... C'est plus une proximité amicale et picturale. Il y a un côté bohème, amical, affectueux aussi chez Caravage. Hein. Voilà. Ça compte beaucoup. Voilà. Et puis, Rome aussi, pour Sassoferrato, qui est cet artiste-là. Alors qu'il est un peu isolé, d'ailleurs, il n'a pas eu tellement de succès à Rome, parce que ça, vous avez bien dit que c'est avait un petit côté baroque, etc. Mais ça aussi, surtout, un côté, entre guillemets, maniériste, cet art lisse, que vous avez vu tout à l'heure. Hein. C'est très ça. Hein. Mais Salvarius, justement, a fait cet art-là à Rome à l'époque. Vous savez, c'est vraiment, ce serait trop simple. Hein. On ne peut pas dire Rome, c'est que baroque, et puis... Il y a donc des gens qui travaillent dans ce sens-là. Salvarius, eh bien, c'est un peu en dessous des radars, mais c'est quelqu'un qui travaillait un peu à la manière des Bolognais qui ont fait ces œuvres très idéalisées qu'on a déjà vues, qu'on va revoir, dans un contexte qui était bon, très baroque d'un côté, très classique de l'autre, et teinté de caravagisme ici ou là. Voilà. Naples, alors Naples, c'est pas trop compliqué parce que la peinture à Naples, elle est, elle, très typée. Hein. Naples, c'est d'abord un artiste espagnol, Giuseppe de Ribera, ou Giuseppe, ou José, comme vous voulez. Il est espagnol, mais comme Poussin qui s'est installé en Italie, lui s'est installé également en Italie, à Naples. Et voilà donc un Silène ivre, on a tout dit, n'est-ce pas, sur le côté un peu rude et limite vulgaire hein, de cette œuvre. Et Cavallino, alors Cavallino, c'est l'inverse, il fait des œuvres jolies, hein, c'est toujours une cantatrice, qui, voilà. Mais avec ce même côté, parce que vous voyez, elle est rougeaude, elle est vue du dessous, enfin, voilà. Il y a un côté instantané, un peu brutal, mais brutal dans la joliesse, si vous voulez. Ça, c'est qu'avec nous, c'est toujours des petites nymphettes qui chantent, qui, voilà. Et là, nous avons effectivement l'enlèvement d'Hélène, de Luca Giordano, hein, encore un de ces grands noms de la peinture napolitaine du XVIIe siècle, vous l'avez bien dit, c'est caravagesque, clair-obscur, réaliste, brutalité, vous avez tout dit, je n'en rajouterai pas, pas plus pour la Défense de Saint-Pierre, qui est due à Mattia Preti, qui a également beaucoup travaillé à Naples, mais qui, après, est allé à Malte. Hein. Malte a été le grand lieu de Mattia Preti, où il est allé après que Caravaggio soit allé, soit fait virer. Voilà, et Mattia Preti a finalement poursuivi le travail de Caravage à Malte. Il y a beaucoup d'œuvres de Mattia Preti à Malte. Hein, voilà. Et puis donc Bologne. Alors Bologne, vous avez bien vu, il y a ça, Abraham et trois anges, on en a parlé. Ça, c'est de Ludovic Carache, le plus jeune des Carache, il y en a eu plusieurs. Ça, c'est Domenichino, le Dominicain de Zampieri, hein, avec, on a vu, Dieu qui reproche à Adam et Ève leur faute. Et là, vous avez donc Mercure et Apollon. Ce qu'on aurait pu vous faire penser à Apollon, c'est qu'il y a les muses derrière. Apollon, il est très souvent avec les muses. Hein. C'est le dieu des arts. Hein. Voilà, donc il y a les muses toujours proches. Le Parnasse est là, à côté d'Apollon. C'est un peu de son attribut. Et puis quand même, faisant partie quand même de ça, il y a ce peintre, Guerchin, Barbieri, qui est souvent un peintre. Alors, il est un peu compliqué, parce qu'il est un peu... On pourrait dire qu'il est un peu baroque. Parce qu'il y a quand même, on pourrait dire qu'il est un peu clair-obscur, un peu caravagesque. On pourrait dire aussi qu'il est très idéalisé, c'est un bolognais. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a chez lui, mais rien n'est simple, si vous voulez. Hein. C'est pas, vous voyez, des fils dans lesquels les gens restent. Hein. Il y a des... Et Guerchin est quelqu'un qui, comme ça, passe un peu, j'allais dire, d'un type à l'autre. Et puis il y a Guido Reni, vous en parliez tout à l'heure pour une autre œuvre. Ça, c'est typique de Guido Reni. Hein. Un artiste très... tout est toujours parfait chez Guido Reni, n'est-ce pas? Encore une fois, cette pauvre Madeleine qui est crasseuse dans sa grotte, on a l'impression qu'elle vient de prendre une douche et de se faire faire un petit régé, si vous voulez. Tout est impeccable. Donc, voilà.
C'est exagéré.
Mais voilà, donc, il y a sur un côté idéal, parfait, une perfection chez Guido Reni qui est vraiment étonnante.
Oui, j'exagère peut-être un peu. Je vois.
Et puis alors, il y a d'autres artistes plus indépendants qui correspondent quelquefois à d'autres centres. Alors, il y a par exemple Florence. Florence qui, à cette époque, n'est quand même plus au niveau pictural. La Florence qui a été à la Renaissance. C'est pas qu'il n'y a plus de peintres. Il y a par exemple Carlo Dolci. Hein. Mais c'est un. Voilà, c'est peut-être plus l'espèce d'immense centre hyper créatif que ça a été. Mais, et puis on fait des autres comme ça à Florence, qui sont un peu, vous voyez, pictural, un peu de tout et rien à la fois. Enfin voilà, c'est réaliste, mais en même temps c'est très, très idéalisé. Il y a du clair-obscur, mais enfin voilà, c'est en même temps assez baroque. C'est un peu tout. Et c'est un peu pareil pour Venise d'ailleurs. Venise, dont Strozzi est originaire, par avoir été à Gênes. Venise qui n'est plus ce qu'elle a été naguère, qui n'est pas encore ce qu'elle va être au XVIIIe. C'est un peu un entre-deux, mais avec des peintres très très important dont Strozzi. Là aussi, vous voyez, on est quelque chose qui est, voilà, c'est moins qualifiable. Idem d'ailleurs pour un artiste comme Guido Cagnacci, qui est le dernier. Hein. Gagnacci, alors ça, c'est un artiste qui a été partout. Il a terminé sa vie à Vienne, en Autriche. Gagnacci est un artiste, alors là, extrêmement curieux. Hein. Vous voyez, il représente la bande du Cléopâtre. Quelqu'un disait, mais ça ressemble pas du tout. C'est vrai, ça ressemble pas à la bande du Cléopâtre. Hein. C'est très, très curieux. Toutes ces filles nues partout. Alors, il était très, très titillé par la chose, Gagnacci. Hein, il représente son amante nue en permanence dans tous ses tableaux. Puis, quand il n'y en a pas assez, il en rajoute. Enfin, voilà. Et en même temps, il y a un côté très réaliste. Cette figure, effectivement, qui est répétée comme trois fois, est en même temps très réaliste. Les gestes, enfin, c'est très, très bizarre. Il y a un côté acidulé, parfait, presque bolognais, en même temps un côté réaliste qui casse ce côté parfait. C'est noir dans le fond, comme chez Caravage. En même temps, c'est hyper coloré au premier plan. Voilà, c'est des artistes inclassables. Voilà. Et si vous voulez, cette petite sélection avait vraiment pour but aujourd'hui, car c'est le dernier tableau que je vous montrerai, de vous montrer qu'il y a quand même des grands courants, des grands thèmes, des grands styles, pourrait-on dire, hein, dans cette Italie picturale du XVIIe siècle, qui sont liés à certains centres. Mais en même temps, il y a des ponts entre les deux, puis des personnalités très singulières. J'espère que ce petit parcours, à partir de Caravage, dans l'Italie du XVIIe, aurait permis de débroussailler un peu le terrain. Et ben voilà. Vous avez été super. D'habitude. Puis ça comme si c'était une...